Psaume 65, continuant donc notre série de méditations sur les passages primordiaux pour la prière qui sont contenus dans les psaumes. Et notre texte de ce soir donc se trouve là, dans le psaume 65, au verset 5 et au verset 6. Nous lisons ce passage. « Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Nous relisons. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Alors le psaume tout entier, le psaume lui-même, présente plusieurs caractères remarquables qui doivent être signalés à notre attention. D'abord, vous avez cette idée dans ce psaume de rassasiement et d'abondance, que vous trouvez d'ailleurs dans notre verset. Hein, donc, « Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison », est-il dit au verset 5. Ensuite, au verset 9, « Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident ». Au verset 10, du début du verset 10, tu visites la terre, tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Au verset 12 encore, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Et au verset 14 encore, les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà ce que Dieu voudrait faire, ce qu'il voudrait accomplir dans le monde. Si les hommes se tournaient vers lui, s'ils plaçaient leur espérance en lui. Et vous remarquez quand même que le premier rassasiement qui est cité dans le psaume, c'est celui de notre verset, c'est-à-dire, c'est un rassasiement spirituel. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. C'est le premier rassasiement. Et donc, se rassasier de la présence de Dieu et de sa communion. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler que ceux qui ont bénéficié des multiplications des pains lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, c'était quand même des gens qui, auparavant, avaient passé avec lui 3 jours dans le désert sans manger parce qu'ils se nourrissaient de la parole de Dieu et des enseignements de Jésus. Donc, et c'est après, à la fin de ces 3 jours-là, qu'ils ont été miraculeusement nourris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, ben, c'est quand même pas une petite affaire. Il faut être quand même prêt à ne pas manger pendant 3 jours parce qu'on écoute la parole de Dieu et qu'on aime la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont prêts à ça. Ça, c'est quand même une question. Donc là, ils étaient quand même une bonne équipe. Ils étaient 5000, plus sans compter les femmes, les enfants, et puis encore une autre occasion. Donc ça veut dire que chercher le Seigneur, chercher premièrement le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante, c'est quelque chose qui nécessite toute notre consécration et toute notre résolution. Et c'est comme cela, dans une telle recherche approfondie, persévérante, de tout notre cœur, que le Seigneur va pourvoir. Que le Seigneur va pouvoir donner toute chose en plus et le faire admirablement et le faire avec abondance, comme cela nous est décrit dans la deuxième moitié du psaume et plus encore. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand thème, celui de l'abondance et des conditions dans lesquelles elle s'est accordée. Puis ensuite, le deuxième grand thème du psaume, c'est celui de l'universalité du désir de salut de Dieu, c'est-à-dire de son puissant désir de sauver. Et non seulement Israël, mais tous les hommes de la terre. Lorsque vous regardez au verset 3, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dieu de notre salut, verset 6, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Verset 9 aussi, ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Ensuite, verset 9 encore, mais la suite, tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Je crois qu'il est difficile de dire mieux que Dieu aime tous les hommes et que Dieu veut leur saluer à tous, que cette merveilleuse expression du verset 3, « Espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer ». Donc, Donc, aucun homme de la terre n'est exclu, on le voit bien, aucun peuple, aucune langue, aucune culture, aussi étranger, aussi exotique, dirais-je, puisse-t-il être. Et c'est un texte merveilleux, je crois, pour l'encouragement, pour le soutien des missions, pour l'annonce de l'Évangile à tout homme, pour le témoignage à tous les perdus. Alors, eh bien, vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, on le voit. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Son amour, donc, pour tous les hommes est ainsi proclamé des siècles avant que l'évangile de Jean ne nous dise « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». On connaissait la suite du passage. Pardon. Et nous voyons que ceci était dans, dans l'esprit de David, à cette période-là, Dieu lui avait inspiré cela et il lui a mis ça à cœur comme quelque chose vraiment d'important. Et ainsi pouvons-nous discerner l'évidence du plan de Dieu qu'il voulait accomplir donc au travers de David et de ses descendants, et déjà en particulier au travers de Salomon, en attendant bien sûr la venue de Christ pour parachever l'œuvre du salut, hein, pour l'accomplir pleinement. Donc déjà, il a suscité dans le cœur de David ce puissant désir de salut pour tous les hommes, que nous retrouvons d'ailleurs chez Salomon. Au début de son règne, quand il était fidèle à Dieu, quand il était en communion avec lui, rappelez-vous, dans sa prière lors de la dédicace du temple, hein, dans 2 Chroniques au chapitre 6, verset 32, voilà ce que nous lisons au sujet de sa prière. « Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. » Et nous savons que Dieu a donné à Salomon, à cette période-là, une sagesse très grande, des richesses multiples, un grand nombre de relations diplomatiques qui rayonnaient très loin, un grand prestige, un royaume stable et paisible, tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse répandre la connaissance du Dieu vivant et du salut au milieu des peuples et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'était vraiment une occasion extraordinaire à ce moment-là que de répandre la parole de vie, comme il est écrit dans notre psaume au verset 6, jusqu'à toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Hélas, nous savons l'immense gâchis qui a résulté du fait que Salomon n'a pas persévéré dans la communion et dans le service de Dieu, et qu'ainsi il a perdu la vision céleste qui aurait pu et qui aurait dû être la grande cause et la grande motivation de sa vie. Vous savez comment il a fini, vanité des vanités, tout est vanité, désabusé. Hein, donc, et je dirais que c'est essentiellement ce péché d'omission qui va accélérer sa décadence spirituelle et va l'amener à perdre la bénédiction, va amener à la non-réalisation des promesses et finalement même à la royauté, à la malédiction pardon, sur le royaume d'Israël après. Et je crois que c'est une grande leçon aussi pour nous de ne pas négliger ce si grand, ce si précieux ordre de mission de l'annonce de l'Évangile à toute créature et du témoignage à rendre à notre prochain. Amen. Voilà, alors tout ça, c'était quand même pour bien situer notre texte de référence, hein, qui va de la deuxième partie du verset 5 jusqu'au verset 6, pour bien comprendre l'esprit dans lequel ces choses ont été écrites. Et nous voyons déjà là, au contraire de ce que peut-être nous avons pu voir ces dernières semaines, les mercredis soirs, quand nous en parlions, nous voyons là que tous les psaumes de David n'ont pas été écrits dans un contexte de péril, de persécution par de dangereux ennemis et de situations où sa vie était en problème. La piété de David n'était pas vivante et profonde seulement quand il avait des problèmes. Mais nous voyons donc dans ce psaume, et spécialement dans notre passage, combien David aimait à mettre à profit les périodes de relâche et d'abondance pour s'approcher d'autant plus du Seigneur et se réjouir de sa communion. Et ainsi, son désir ardent, c'est, verset 5, deuxième partie, « Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Amen. Voilà, c'est là son projet, c'est là son plus cher désir. Alors maintenant, voyons quels sont ceux qui vont avoir ce grand privilège, cette grande bénédiction précieuse de pouvoir ainsi se rassasier. Hein, donc, parce que pour cela, il faut quand même être choisi, être admis. Regardez le début du verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Alors, quels sont ceux que Dieu va choisir? Sur quels critères va-t-il les choisir? Nous le voyons, ça commence par la confiance. C'est ce qui est marqué avant, on le voit déjà au verset 2. Avec confiance au mon Dieu. C'est comme ça que ça commence. Parce que la foi, c'est la condition de base pour plaire à Dieu, pour s'approcher de lui dans une disposition qu'il agrée. Confiance en la bonté de Dieu, confiance en sa justice, confiance en sa puissance victorieuse, confiance en sa miséricorde, dans ses grandes compassions, sa grande grâce et bien sûr sa sainteté. Voilà. Et puis, je dirais que ça se fait aussi dans un esprit de louange. C'est ce qu'on voit juste après, avec confiance au Dieu, on te louera dans Sion, car il est digne d'être continuellement remercié déjà, donc à cause de ses grâces multipliées envers nous, et à cause de sa parfaite providence et de ses grandes compassions. Et ça, ça nous amène évidemment à la louange, parce qu'on considère, lorsqu'on considère ses œuvres magnifiques, qui démontrent l'excellence de ses caractères, quand nous voyons les détails de sa création, quand nous découvrons les trésors de sa merveilleuse parole. Donc ça, donc deuxième élément, deuxième caractère qu'on voit de ceux qui sont ainsi choisis, c'est ceux qui font ça dans un esprit de louange. Et ça se fait aussi en accomplissant les vœux qu'on a faits à Dieu. Fin du verset 2. C'est-à-dire que quand on se tourne vers Dieu de la bonne façon, évidemment, notre cœur est engagé, notre bouche aussi, par nos louanges en particulier, et logiquement, ça va se traduire en acte. Ça va se traduire en engagement pratique. Des engagements de vivre selon la parole de Dieu, bien sûr. Parce que sinon, ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont pas que peu de valeur devant Dieu. Mais ces engagements, il faut les accomplir pour que, notre foi et notre louange au Seigneur se traduisent en actes d'amour pour Dieu. Parce que Dieu n'aime pas les négligents, il n'aime pas les superficiels, il n'aime pas les incohérents. Ceux qui, dans l'Ecclésia, sont appelés les insensés quand ils dénoncent ce qu'ils disent et ne font pas. Et l'apôtre Jacques nous rappelle, la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi ta foi sans les œuvres. « Je te montrerai ma foi par mes œuvres », dit nous rappelle-t-il. Et puis, ça se fait aussi, être ainsi introduit dans cette bénédiction, ça se fait en croyant que Dieu écoute la prière. Est-ce que vous croyez que Dieu écoute la prière? Alléluia. La prière, c'est vraiment un très grand privilège que Dieu fait à l'homme. Nous dire qu'il écoute notre prière. Mais quand vraiment on sait ça, quand on se retrouve dans quelle que soit la situation, quand un malheureux crie, par exemple, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Et tant d'autres passages qui expriment la même chose. Et celui qui sait ça, qu'est-ce qu'il va faire? Alors bien sûr, il va faire monter des prières de foi vers le Seigneur. S'il croit que Dieu écoute la prière, alors la meilleure chose qu'on peut faire, c'est assiéger le trône de la grâce, n'est-il pas vrai? À ce moment-là, on peut présenter toutes sortes de personnes, toutes sortes de situations, toutes sortes de besoins, si on croit cela. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est qu'il en soit ainsi, parce que nous croyons aussi que le mieux, c'est quand même lorsque Dieu intervient dans une situation. Il le fait beaucoup mieux que nous-mêmes. C'est vraiment la chose qu'il nous faut rechercher et désirer, et combien la prière de la foi est précieuse devant Dieu. Et ensuite, ça se fait aussi, en cinquième, on est à l'objectif du salut de tous les hommes. Parce que lorsque vous regardez dans le verset 3, « Tous les hommes viendront à toi ». Alors, nous avons dit, c'était un des deux grands sujets de tout le psaume, et ça nous confirme aussi que quand nous avons le désir de travailler au salut de beaucoup, quand nous avons l'amour des perdus pour qu'ils soient sauvés, qu'ils soient gagnés à Christ, nous sommes vraiment dans l'approbation divine. Nous sommes vraiment dans ce que Dieu veut pour nous, puisque justement nous avons à cœur ce grand ordre de mission qui lui est si cher, parce que le Fils de l'homme, il est venu pour quoi? Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà. Et puis une sixième chose encore, ceux qui se rassasiront donc de ces bénédictions divines ont fait l'expérience d'une profonde conviction de péché. Ça aussi, c'est quelque chose qui est là. Parce que d'un seul coup, voilà David qui dit au verset 4, « Mes iniquités, les iniquités, macable, macable. » Et oui, c'est vrai. Alors, vous savez, nous sommes tous pécheurs. Et je dirais que même des inconvertis, des gens à peu près sensés, ils admettent ça. Ils admettent qu'ils sont des pécheurs, c'est vrai. Mais rares sont ceux qui confesse, comme Paul, « ce qui est bon, je le sais, n'habite point en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Hein, donc voilà, rares sont ceux qui font comme ce publicain. Vous savez, quand Jésus parle du pharisien, du publicain qui venait prier dans le temple, et puis vous avez ce publicain qui était au fond, et puis qui se frappait la poitrine en signe de repentance en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur hein. ». Rares sont ceux qui font cela. Et pourtant, sans conviction de péché, il n'y a pas de tristesse à salut. Sans véritable conviction de péché, il n'y a pas de vraie repentance. Sans conviction de péché, il n'y a pas de foi profonde et véritable en celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que nous puissions être amenés à Dieu. Sans conviction de péché, il n'y a pas de reconnaissance profonde et salutaire envers celui qui nous a rachetés par son sang précieux comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache afin de nous sauver. Amen. Parce que la conviction de péché, la repentance vraie qui l'accompagne sont à la base de la vraie foi et de la vraie réception dans notre cœur de Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et puis, enfin, la septième chose, en conséquence de cette conviction de péché à salut, ceux qui ont bénéficié de ces grandes grâces ont aussi une pleine assurance du pardon de leurs péchés. Parce que dans la deuxième partie du verset 4, heureusement, il est marqué « Tu pardonneras nos transgressions ». Alléluia. Tu les pardonneras. Et c'est comme ça que David peut dire « Oh, qu'heureux est celui dont la transgression est remise et dont les péchés sont pardonnés. » Alléluia. Et c'est comme ça qu'Ésaïe aussi peut proclamer de la part du Seigneur « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Et encore, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Et l'apôtre Jean, enfin, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alléluia, alléluia. Et ainsi voyons-nous que celui qui est choisi, ceux qui vont être des élus du Seigneur, eh bien, heureux celui que tu choisis, que tu admets en ta présence, c'est bien Dieu qui choisit, c'est vrai, hein ? C'est bien Dieu qui choisit, donc les élus de Dieu le sont par sa souveraine volonté, hein, comme il est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui soit choisi souverainement l'un et pas l'autre, c'est vrai, mais vous savez, Dieu ne choisit pas arbitrairement. Dieu ne choisit pas arbitrairement. Et c'est pourquoi nous pouvons rappeler ces conditions qui sont indiquées dans le début du psaume, qui nous expliquent comment et pourquoi Dieu choisit. Donc, faire confiance à Dieu, avoir un esprit de louange, accomplir ses vœux envers lui, croire qu'il écoute la prière, vouloir le salut pour tous les hommes, avoir une profonde conviction de péché, une pleine assurance du pardon de nos péchés. Et ceux qui ont à cœur ces choses, eh bien, ceux-là font partie de ceux qu'il choisit, qu'il admet dans sa présence pour les faire demeurer dans ses parvis, comme il est dit au début du verset 5. Amen. Et c'est à cela donc que le Seigneur veut accorder ce plein rassasiement, puisque nous arrivons maintenant au cœur de notre passage. Et qu'est-ce qu'il veut leur accorder? Déjà, il veut leur accorder en abondance le bonheur de sa maison, est-il dit là. Hein, le bonheur de sa maison. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Ça, c'est la grande quête de l'humanité. Hein, qui nous fera voir le bonheur? Et réponse dans le passage qui dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Voilà, la joie de Dieu, plus grande que tous les bonheurs que les hommes peuvent accorder. Hein, c'est cette réalité, cette joie merveilleuse que le Seigneur accorde aux siens. Hein, donc, le fruit de l'esprit, c'est dans l'ordre, l'amour, la joie, la paix. J'arrête là. Ça continue, mais j'arrête là. Donc, ces trois-là dans l'ordre. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Béni soit Dieu. Ça fait partie de la gloire céleste qui nous attend. Et en attendant, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nul ne vous ravira votre joie. Amen, amen. Et c'est quand nous sommes dans sa maison, quand nous y demeurons, quelque part comme Anne et Siméon, vous savez, ceux qui attendaient la venue du Seigneur à sa naissance, hein, et qui ne quittaient pas la présence de Dieu, la maison de Dieu, sauf, bien sûr, nécessité urgente, qui aiment cela, eh bien, ce sont ceux-là que le Seigneur pouvait de mieux en mieux réjouir, et auxquels il pouvait de mieux en mieux se révéler et les remplir de plus en plus de sa fidélité, de sa félicité, pardon. Amen. Amen. Et il veut aussi nous rassasier, est-il marqué là, de sa sainteté, de la sainteté de son temple. Et il y a de grandes récompenses, il y a de grandes bénédictions pour ceux qui ont à cœur de mener une vie de sainteté, une vie de mise à part pour Dieu et ce processus de la sanctification qui nous fait avancer dans cette voie de sainteté. Si tu sais séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit le Seigneur. Alléluia. Hein, donc voilà, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Le Seigneur veut que nous soyons des vases sanctifiés, utiles à notre Maître. Et les moyens de cette sanctification, eh bien les voilà, voilà cette parole de Dieu, profondément aimée, lue, écoutée, méditée, étudiée avec dévotion, avec amour. La prière, la communion avec notre Dieu, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra, alléluia. Il te le rendra, c'est vrai. Et puis la plénitude du Saint-Esprit, avec, je dirais, l'esprit de remerciement, les louanges, les actions de grâce, qui l'accompagne, qui l'entretient, l'amour du prochain, l'amour des perdus, l'amour des frères et sœurs en Christ et ses manifestations pratiques. Voilà les choses qui valent la peine quand on s'en occupe. Hein, donc voilà, voilà ce en quoi nous ne serons jamais déçus, à la différence de tous les rassasiements qu'on nous fait miroiter dans ce monde. Et ces choses-là, elles peuvent être au début de peu d'apparence. Vous savez, les choses du royaume de Dieu, c'est pratiquement toujours comme ça. Au début, elles ont peu d'apparence. Elles ne ressemblent pas à grand-chose. Et il faut avoir la foi pour croire. Hein, donc voilà. Et quand on rentre dedans, bien on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de réalité que ce qu'il y avait dans l'apparence première au départ. Parce que c'est par la foi qu'il faut s'y engager et qu'il faut y entrer. Mais quel précieux résultat pour ceux qui, justement, sont de ces violents, quelque part, qui, de cette manière, s'emparent du royaume des cieux. Amen. Car, et c'est le point culminant de notre texte, pour ceux qui font ainsi, le Seigneur veut les exaucer par des prodiges, est-il marqué là, au début du verset 6. C'est vrai, dans sa bonté, c'est cela qu'il veut faire. Vous savez, les prodiges, ce sont les plus grands dans les différentes catégories de miracles, si on peut parler comme ça. Les prodiges, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Vous savez, j'imagine que ceux qui sont allés écouter Jésus pendant 3 jours dans le désert et qui sont restés là, pouvaient être peut-être considérés par certains comme des fous et des extrémistes, hein. Donc, je me dis, bon, il y en a certainement un certain nombre qui, au bout d'un jour, sont partis, ils ont dit, j'ai rien mangé aujourd'hui, je m'en vais, je pars. Hein. D'autres, ils sont peut-être restés jusqu'au deuxième jour. Hein. Puis on dit, maintenant, ça suffit, hein, quand même, il ne faut pas exagérer, là, c'est trop, hein, ils sont encore là, restés là, pendus aux lèvres de Jésus. Bon, moi, je veux bien, mais il ne faut quand même pas exagérer, hein. Il ne faut quand même pas trop. Donc, mais quand les autres ont bénéficié de la multiplication des pains, quand ils se bénéficiaient de ce rassasiement-là, alors là, ils ont expérimenté la promesse de ce verset. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Est-ce que vous croyez qu'ils ont regretté d'être restés là le troisième jour? Est-ce que vous croyez que l'expérience qu'ils ont faite ce jour-là, vous croyez qu'ils l'ont oubliée toute leur vie? Jamais ils n'ont oublié cette expérience toute leur vie. C'était quelque chose, mais ils se sont congratulés les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait de rester là jusqu'au troisième jour? Alléluia! Hein? Et c'était quelque chose. Et j'imagine, vous savez, de la même façon que les disciples que Jésus avait obligés à monter dans la barque pour traverser la mer de Galilée dans des conditions de vent contraire. À eux, c'était des marins, vous savez, des pêcheurs, quand même. Ils connaissaient la mer de Galilée. Jésus leur dit de traverser. Non, les vents sont contraires. Puis ils n'avaient pas envie d'y aller. Et alors que Jésus les a obligés. Alors moi, j'imagine que les spectateurs qui étaient là, ils disaient, oh là là, ça rigole pas avec Jésus, hein. Il les oblige à aller, et puis il faut qu'ils y aillent, quand même, c'est un peu raide, hein. Nous, et puis après, surtout qu'après, voilà quoi, le vent est contraire, c'est pas facile, les gars, ils devaient se dire qu'ils étaient sur le bord, on a bien fait de rester là, hein. On n'est pas disciples de Jésus, non, nous, c'est bien, on est comme on est, hein. Voilà. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus qui marchait sur la mer à côté d'eux, alors ils ont eu peur au début, alors ils ont eu une grande peur. Voilà, puis après, quand ils ont Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre a demandé, mais est-ce que je peux aller marcher sur l'eau moi aussi? Et le voilà qui sort de la barque et commence à marcher sur l'eau. Mais les autres, ils étaient là, et tout le monde était là, et Pierre était là, mais bon, vous savez comment ça a fini, hein. Le pauvre Pierre, il a été un petit peu humide dans l'affaire, bon, mais ça fait rien quand même. Vous croyez qu'ils ont regretté la chose? Vous croyez qu'ils ont regretté d'être disciples de Jésus, qu'il est obligé d'aller avec lui? C'est une expérience. Ils n'ont jamais oublié cette expérience-là. Ils l'ont retenu dans leur cœur. Pour eux, c'était un prodige extraordinaire dont ils ont été témoins. C'était un grand sujet de joie et d'assurance pour eux. Et certainement, ils n'auraient voulu échanger leur place avec personne. Et puis ensuite, dans l'autre occasion où Jésus était avec eux dans la barque, alors c'était encore pire là. Parce que ce coup-là, c'était la tempête. Et en plus, Jésus s'obstine à dormir. Il y a l'eau qui commence à rentrer dans le bateau. Jésus s'obstine à dormir en pleine tempête dans un bateau secoué. Ben ouais, mais c'est pas possible, là, c'est... Hein, voilà, bon, et finalement, ils ont eu peur, hein. On dit, ah ben, et puis sur le bord, les gens ont dit, regarde, mais ils ont encore traversé avec Jésus, encore n'importe quoi. Déjà, la dernière fois, c'était compliqué, parce qu'il y avait du vent contraire. Mais là, c'est la tempête, les voilà pris dans la tempête. Mais qu'est-ce qu'on a bien fait de rester au bord? Qu'est-ce qu'on a bien fait de rester sur la terre ferme? Qu'est-ce qu'on a bien fait de rester? Ils sont fous d'être partis avec Jésus, encore cela. Puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Ils réveillent Jésus, ils ont peur, puis Jésus se lève, je ne sais pas s'il se lève, c'est pas marqué. Ouais. Jésus, il fait un signe, et voilà le vent, il part le vent, il s'arrête. Il dit à la mère de ce qu'il y a, il y a le micro aussi. Voilà, comme ça. Et puis il part là, et puis il se fait un grand calme. Alors ils sont là. Là, ils ont une grande crainte dans leur cœur, c'est marqué. Ils ont dit, mais quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Vous croyez qu'ils ont oublié ça? Jamais ils ont oublié ça. Vous croyez qu'ils ont regretté d'avoir fait cette expérience un peu compliquée? Jamais ils n'ont regretté cette expérience-là. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils ont suivi toute leur vie. C'est quelque chose vraiment qui les a profondément réjouis. Alléluia. Oui, c'est vrai. Oui, c'est glorieux. Et les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute à la Pentecôte. Ah, on pense souvent à ça. Mais rappelez-vous, Jésus leur avait dit, bon, ben écoutez, vous allez attendre, hein, jusqu'à ce que je vous envoie ce qui a été promis. Bon, il n'a pas dit quoi? Si, il a parlé du Saint-Esprit auparavant, mais là, sur ce coup-là, il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit comment ça arriverait? Est-ce que ça va leur tomber dessus comme la misère sur le pauvre monde? J'en sais rien, moi, ils ne savaient pas. Hein, donc, ils devaient attendre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont décidés à persévérer dans la prière. Alors, je ne sais pas combien ils étaient au départ, quand ils ont commencé à persévérer dans la prière jour par jour. Bon, je sais que le dernier jour, ils étaient 120. J'imagine qu'il y en a, à force de venir tous les jours, parce que c'était tous les jours, hein, ils se retrouvaient tous les jours, hein, ils ne se retrouvaient pas un mercredi ou un vendredi ou un dimanche, c'était tous les jours. Ils se retrouvaient là, à prier tous les jours. J'imagine, certains, ils ont dit, tous les jours, c'est beaucoup, hein, une fois un jour sur deux, ah, puis peut-être un jour sur trois, hein, puis peut-être une fois par semaine, je ne sais pas moi. Hein, bon, ils se sont dit, bon, ça suffit. Puis ceux qui viennent tous les jours, il ne faut quand même pas exagérer, il n'y a quand même pas que ça dans la vie. Oui, mais le jour où la Pentecôte s'est manifestée, le jour où le vent a soufflé, le jour où les petites flammes sont descendues, le jour où ils ont commencé à parler d'autres langues, le jour où le Saint-Esprit a commencé à accomplir son œuvre magnifique, ceux qui étaient là, eh bien ceux-là ont eu une joie extraordinaire, une expérience, un prodige, mes amis, un prodige. Et si quand d'autres après venaient et puis qu'ils leur disaient, ben c'était, ah si vous aviez été là, comme vous auriez été béni vous aussi. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Et c'est ça la réalité, vous savez. C'est ça la réalité. Donc, pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés à la promesse divine. Et puis, voilà, c'est ça. Tu nous exauces par des prodiges. Ô toi, espoir de toutes les extrémités de la terre et de la mer. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce qu'il veut faire encore, hein. C'est ce qu'il veut faire encore pour nous, c'est sa volonté, c'est son désir, pourvu bien sûr que nous ayons à cœur de nous attacher à sa parole et de saisir ces choses pour nous-mêmes aussi. Béni soit son nom. Amen. Amen.